16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il est l'un des trois grands noms de la philosophie grecque avec Socrate et Platon, celui qui a dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Je peux donc, sans réfléchir, affirmer que le très savant Stéphane Bern nous raconte Aristote, le prof de philo qu'on aurait tous aimé avoir.
Socrate, Platon et Aristote. Il y a, c'est vrai Mathieu, une continuité entre eux, presque une filiation. Platon a été l'élève de Socrate et Aristote l'élève de Platon, enfin disons plutôt l'étudiant. Lorsque Aristote quitte la Macédoine pour débarquer à Athènes, il y a 25 siècles, on est en 366 avant notre ère, il a déjà 17 ans et ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Son père, Nicomaque, est le médecin personnel du roi Amyntas de Macédoine, c'est-à-dire le père du futur Philippe de Macédoine et le grand-père de celui qui deviendra Alexandre le Grand. Voilà qui vous situe un peu le niveau de la famille dans lequel Aristote a grandi, une famille de médecins dont certains affirment qu'elle descendrait du dieu de la médecine en personne, Asclépios.
Pas mal.
Mais Aristote, tout droit venu de la cité de Stagir, et qu'on va commencer à surnommer le Stagirite, ça n'a rien à voir avec les stagiaires, hein, voilà. Ne s'oriente non pas vers la médecine, mais bien vers la philosophie. Et donc, vers la star absolue de la discipline, Platon. Un Platon qui règne sur la discipline depuis qu'il a fondé, 20 ans plus tôt, dans les faubourgs d'Athènes, la célébrissime Académie, une sorte d'ancêtre de nos campus universitaires, dont le fronton affichait la fameuse devise « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Dans ce lieu qui, il faut bien le dire, surtout fréquenté par des jeunes gens de la bonne société, Aristote fait ses classes comme élève d'abord, puis comme maître. Pendant pas loin de 20 ans, rapidement, le stagirite commence à se distinguer de Platon. En simplifiant, on peut dire que la curiosité tous azimuts d'Aristote l'éloigne petit à petit de son vieux maître. Pour Platon, notre monde réel n'est jamais que la pâle copie du monde des fameuses idées. Ces sortes de modèles purs, d'abstractions idéales, de modèles de référence, pourrait-on dire. Pour Platon, le cheval que vous croisez dans les champs n'est jamais que l'idée de cheval. On va dire la chevalité. Plus le temps passe, plus Aristote commence à se cabrer face à cette vision qu'il juge, pour être tout à fait franc, un peu fumeuse. Aristote est, après tout, un fils de médecin habitué à observer la nature de très près et il ne voit aucune raison de dédaigner le monde matériel pour avancer dans la connaissance. Ami de Platon, d'accord, mais d'abord ami de la vérité, pour reprendre l'une de ses formules. Et voilà comment, petit à petit, Aristote se détache du maître pour créer sa propre pensée. Évidemment, bien trop vaste pour être résumé en quelques mots. Alors, que peut-on en dire, Mathieu ? Qu'elle se caractérise, merci, par une...
Vous vouliez que je développe la pensée d'Aristote ? Vous voulez qu'on rappelle nos notes en philo au bac ? Je peux, si vous voulez, mais ça va nous prendre un peu de temps.
C'est si loin, vous savez, je n'ai aucun souvenir. Qu'elle se caractérise par une envie de savoir totale. Pour Aristote, l'homme se caractérise parce qu'il a naturellement la soif de connaître. Mais cette masse, il faut l'organiser à l'aide du merveilleux outil qu'est la logique. Aristote divise le savoir en trois grands domaines. Le premier englobe l'art et la création. Le deuxième, ce qui relève de la philosophie pratique et morale, donc la politique. Et le troisième, c'est la science et la théorie. Aristote va passer sa vie à explorer tous ces domaines sans écarter le moindre sujet. Il a un côté encyclopédiste avec sa manière de s'intéresser à tout, de réfléchir à tout. Le même homme est capable de poser les bases de la métaphysique et d'inventer les outils de la logique, puis de fixer les bases de l'histoire naturelle et de la biologie avant de s'intéresser à la rhétorique, à la poésie et à tous les ressorts du langage, avant de s'intéresser à la définition du bonheur, avant de... Oui, vous l'avez compris, Mathieu, c'est infini, il n'y a pas de limite. Et parce qu'encore une fois, Aristote est un pragmatique. Le philosophe essaye d'en fixer les conditions. Le plaisir et la sagesse sont deux bons moyens d'y parvenir, bien sûr. Mais il y ajoute un ingrédient essentiel, la vertu. Et la vertu, c'est ce qui se caractérise par un équilibre entre deux excès. Le courage, par exemple, c'est le juste milieu entre la lâcheté et la bravade. À force de croiser, de recouper, de papillonner, d'étudier absolument tout, quitte à disséquer même ce qui lui tombe sous la main, y compris un caméléon, Aristote se forge une conviction. La réalité a un but, ou pour le dire comme lui, la nature ne fait rien en vain. Il y a une raison à tout. Et plus on remonte la chaîne, plus on s'approche d'une cause première, ce qu'il appelle le premier moteur, une idée qui permettra aux philosophes du Moyen-Âge occidental, bien plus tard, de dire que tout païen qu'il était, Aristote avait peut-être trouvé la définition du Dieu chrétien. Au beau milieu de cette réalité du monde, qu'il s'acharne à comprendre et à décrire, il y a l'homme, et vous connaissez la formule célèbre, Mathieu, l'homme est un animal politique. On connaît moins une autre phrase très belle pourtant, « Ne vivent seuls », dit Aristote, « que les monstres et les dieux ». Bref, l'homme est une espèce communautaire, le seul animal capable de réfléchir sur lui-même et de s'organiser en cité, un modèle qu'il juge insurpassable parce qu'on peut, dit-il, l'embrasser d'un regard. C'est beau, non ?
C'est sublime.
Mais c'est un peu triste aussi, parce que Aristote est en train de réfléchir à l'organisation d'un monde qui est en train de disparaître. La Grèce des cités, celle d'Athènes, de Corinthe ou de Sparte, se meurt. Et la Méditerranée avance, elle, à grandes enjambées, vers le nouveau schéma mental de l'Antiquité, celui qui verra émerger de vastes empires et des États centralisés. Tout cela en partie grâce, ou à cause, du plus célèbre des élèves d'Aristote, Alexandre de Macédoine, le célèbre Alexandre le Grand. S'il vient en effet de Macédoine, Aristote finit par y retourner pour donner des cours à Alexandre le Grand. Lorsque Platon meurt en 347 avant Jésus-Christ, Aristote pense avoir ses chances pour prendre sa succession à la tête de l'Académie. Mais c'est loupé. Un peu vexé, il quitte alors la ville et passe quelques années à voguer de cité en cité avant de recevoir une invitation qui ne se refuse pas, signée de Philippe de Macédoine en personne, donner des cours à l'héritier du trône, le jeune Alexandre, 13 ans tout juste. En 343, Aristote file donc vers la ville de Péla, pas très loin de Thessalonique aujourd'hui. Il va y passer plusieurs années comme enseignant et comme mentor d'Alexandre. Mais voilà, la politique d'Alexandre ne lui plaît pas tellement. Toutes ses conquêtes à la hussarde, tous ses rêves de grandeur ne collent pas avec sa vision du monde. Alors Aristote retourne à Athènes en 335 et il y fonde la deuxième école de philosophie la plus connue de l'Antiquité, la grande rivale de l'Académie de Platon, le lycée, dont on a d'ailleurs retrouvé l'emplacement exact en 1996. C'est un lieu assez grand où l'on partage son temps entre l'étude dans la bibliothèque, les salles d'exposition ou les salles de classe et la promenade dans ce qu'on appelle le péripatos, cette idée qu'on ne réfléchit jamais aussi bien qu'en se promenant, va donner leur nom aux disciples d'Aristote qui suivent sa doctrine, les péripatéciens. Les péripatéticiennes, oui. Qui n'ont donc rien à voir avec leurs homologues féminines, les péripatéticiennes qui arpenteront les trottoirs beaucoup plus tard. Mais pendant ce temps-là, l'histoire, la grande, continue. Alexandre a conquis une bonne partie du monde connu, à commencer par la Grèce, qu'il a eu tendance à unifier, vous voyez l'image, à grands coups de pied aux fesses, ce qui ne lui a pas valu que des amis. Lorsqu'Alexandre meurt en 323, le monde se souvient soudain qu'Aristote est son ancien professeur. Comme celui-ci n'a pas la moindre intention de devenir un deuxième Socrate, qui a fini, je vous le rappelle, condamné à boire la ciguë, accusé notamment de corrompre la jeunesse, Aristote part se réfugier avec femme et enfant à Chalcis, la ville de sa mère, où il rend l'âme, un an plus tard, à 62 ans. Aristote laisse derrière lui une œuvre riche de 170 ouvrages, dont la plupart ne nous sont pas parvenus, loin de là. Seuls 47 ont été retrouvés. Et cette frustration d'être privé des deux tiers de la pensée d'un philosophe aussi majeur, on en voit la trace amusante dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. Le fameux livre pour lequel on tue des moines dans le roman, c'est un texte perdu d'Aristote, le livre 2 de la poétique, consacré à la comédie. Une preuve de plus, s'il en fallait une, qu'Aristote s'intéressait, mais vraiment, vraiment à tout.
Europe 1, historiquement vôtre.